personnages insolites sur Radio Grand Ciel. Au micro, Elisabeth Couget. Bonjour à Christine, mon acolyte, et bonjour à tous nos auditeurs qui pourront suivre notre émission grâce à Simon, que nous remercions, notre technicien qui devrait assurer la retransmission de l'histoire de notre personnage insolite d'aujourd'hui.
Bonjour Elisabeth. Dis-moi, de qui parlerons-nous cette fois-ci ?
Eh bien voilà Christine, on va faire une petite devinette. Il s'agit d'un roi du début du XXe siècle, en Europe centrale, mort très jeune et qui fut béatifié beaucoup plus tard. Petite idée peut-être ?
Ce n'est pas trop difficile me semblait-il, mais bien sûr je peux me tromper.
Alors tu penses à qui ?
À Charles d'Autriche, roi de Hongrie et considéré comme le dernier empereur d'Autriche.
Bravo Christine, tu as raison. Notre personnage insolite est bien Charles du Habsbourg, l'arrière-petit-neveu de François-Joseph. Charles est né en 1887 à 80 km de Vienne, dans un des châteaux des Habsbourg. À l'origine, il n'était pas du tout l'héritier de la dynastie. Au moment de la tragédie de Mayerling, dont sûrement vous avez entendu parler, il avait à peine 2 ans. Alors, vous vous souvenez sûrement de cette histoire-là, puisque Rodolphe, le fils de Sissi, a disparu brutalement.
Oui, le fils.
Et qui était l'héritier du trône de l'Empire.
C'est ça, le fils de Sissi et de François-Joseph.
Oui, bien sûr. Et à ce moment-là, personne n'aurait imaginé que ce bébé joufflu de 2 ans va se retrouver un jour à la tête de l'Empire austro-hongrois. Charles est le neveu du tragiquement célèbre François Ferdinand, dont l'assassinat en 1914 à Sarajevo a déclenché la Première Guerre mondiale.
Comment était l'enfance de Charles ?
Alors, il faut pour cela parler aussi de ses parents. Sa mère, la princesse Maria Josepha de Saxe, une jeune femme très catholique, très pieuse, s'est mariée avec l'archiduc Otto, le frère cadet de François Ferdinand. Otto, très différent de sa femme, très bel homme, ne pense qu'au plaisir. Avant son mariage, ses fresques défrayaient la chronique mondiale et de tout le pays et tout l'Empire. On cite toujours une soirée mémorable où Otto, ayant bu plus que de raison, s'est présenté au célèbre hôtel Zacher, dont on connaît les gâteaux. Face à l'Opéra de Vienne, vêtu en tout pour tout, de son seul ceinturon et de son sabre. Voilà comment était son père qui, une fois marié, était peut-être un peu moins farfelu, mais tout en continuant à mener une vie tout à fait dissolue.
Et sa femme, la princesse Maria Josepha, a accepté cela longtemps ?
Ah non. Non, 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 l'amour n'efface pas tout et donc Maria Josepha ne pouvait pas accepter ce comportement et le couple s'est séparé au bout de quelques années, tandis qu'Otto continuait à se détruire. D'ailleurs, il est mort des suites de ce comportement puisqu'il a attrapé la syphilis et il en est mort à 41 ans.
Et le petit Charles, Charles vivait auprès de sa mère.
Oui, et l'éducation maternelle s'est ressentie sur lui. Maria Josepha était une catholique très pratiquante, comme je le disais, très pieuse, et son fils sera imprégné par le modèle de sa mère, qui partagera sa destinée et connaîtra, hélas, l'épreuve la plus difficile et la plus douloureuse pour une mère, celle de devoir survivre à la mort de son enfant. Bon, je pense que je vais un peu trop vite dans le temps. On n'y est pas encore. Alors, continuons à découvrir la vie de Charles d'Autriche, qui, enfant, préférait ignorer ce père. Il en avait honte, ce père indigne, et n'en parlait pratiquement jamais. C'est comme s'il n'existait pas. Otto était officier dans l'armée impériale, et du coup, la toute petite enfance de Charles s'est déroulée au gré des affectations de son père, à travers l'Empire, depuis la Hongrie jusqu'à la Moravie, via la Bohême et même au-delà, au sud de l'Europe aussi.
Et où passait-il ses vacances ?
Alors, les vacances se passaient en général chez son grand-père de Saxe, oui. Sur les contreforts des Alpes autrichiens, où il retrouvait d'année en année les cousins Bourbons d'Espagne, les Bourbons de Parme et les Braganses, qui étaient tous des représentants des dynasties détrônées. Ensuite, à partir de l'âge de 7 ans, sa vie changera et il serait confié aux hommes et sera soumis à une vie de discipline de fer. Imaginez, levé à 6 heures pour un enfant de 7 ans, suivi d'un bain froid, été comme hiver, puis venez études et sports. Ce régime va pourtant l'aguerrir. Il apprendra des langues de l'Empire, mais ne parlera couramment que le hongrois et le tchèque et le serbo-croate quand même.
C'est déjà pas mal.
Oui, c'est pas mal, 3 langues, mais c'était le minimum à cette période-là. Et il ira à la messe tous les jours avec sa mère. Voilà l'éducation du futur empereur d'Autriche.
Et comment se passa son adolescence ?
Très tôt, dès l'âge de 9 ans, à la mort de son grand-père, Habsbourg, qui était donc le père d'Otto, pour qu'on ne se perde pas de toutes ses affiliations, il va prendre conscience que si son oncle, François Ferdinand, disparaissait, c'est lui qui deviendra l'empereur d'Autriche. À partir de là, il vit finalement dans cet esprit-là, découvre l'Empire à fond, fait son service militaire, et à la mort de son père, alors qu'il vient d'avoir 19 ans, sa mort le rapproche du pouvoir et il commence sa formation politique en vue d'un avenir royal. À 22 ans, il achève ses études. On peut lire à son sujet comme description « Blond, aux yeux bleus, très régulier, beau garçon, taille d'1m78 et il avait un caractère déterminé. » Donc, il est devenu un jeune homme tout à fait accompli, prêt au pouvoir, mais il n'en rêve absolument pas. En réalité, ce qu'il aime, puisqu'il a des goûts rustiques, c'est la nature, la montagne, la chasse, et il aime rire.
La plus importante.
Exactement. Il suscite la sympathie et il est extrêmement attentif aux autres.
Mais était-il vraiment prêt pour prendre le pouvoir sur l'Empire austro-hongrois ?
Eh bien, sa bienveillance naturelle est un handicap pour cela et qui l'empêche de voir le mal, craignant de blesser les autres. Il hésite à prendre des décisions tranchées et du coup, il donne tout à fait l'impression d'être indécis. Ce qui n'est pas toujours le cas, surtout pas lorsqu'il a choisi sa fiancée. À ce moment-là, il a 24 ans. Nous sommes en 1911, lorsqu'il se fiance avec Zita de Bourbon-Parme, la fille du dernier duc de Parme, et de Maria Antonia de Bragance, qui, tout comme Charles, a reçu une éducation religieuse très poussée. À l'issue de la réception de leur mariage, Charles dira à sa jeune épouse « Maintenant, notre devoir est de nous aider mutuellement à aller jusqu'au ciel ». C'est une phrase qui fait réfléchir tout en écoutant un petit peu de musique et on se pose des questions jusqu'à quel point ça peut être le but d'un jeune couple.
Et je commence à comprendre pourquoi il a été béatifié.
Béatifié plus tard, exactement.
Déjà.
Notre personnage insolite aujourd'hui sur Radio Grand Ciel est Charles, dernier empereur d'Autriche. Juste avant les quelques notes de musique, Charles venait d'épouser Zita Bourbon de Parme alors qu'il vient d'avoir 24 ans. Ce jour de 21 octobre 1911 est le 19e anniversaire de la mariée. François-Joseph assiste au mariage au milieu des quelque 300 invités. L'empereur est particulièrement attendri. Ce mariage annonçait pour lui la pérennité de la dynastie. Au dessert, François-Joseph porte un toast en français par courtoisie vis-à-vis des Bourbons-Parme. Le lendemain, le jeune couple partira en voyage de noces vers le point le plus méridional de l'Empire et à leur retour, ils visiteront Mostar avec son célèbre pont et Sarajevo où le calme règne.
Pour l'instant.
Mais la clameur va s'élever 3 ans plus tard, en 1914. Nous n'en sommes pas encore là. Le jeune couple est radieux. Toute la vie est devant eux.
Du moins le pense-t-il, et c'est normal, puisqu'il s'agit d'un jeune couple amoureux. Hélas, quelquefois le sort en décide autrement.
Eh oui. Pour le moment, ce n'est pas encore le problème, mais Charles a rejoint son régiment en Bohême, à peine revenu de leur voyage de noces, et bien entendu, Zita l'accompagnera, tout comme à chacune de ses affectations, et cela jusqu'au début de la guerre. Mais avant, Otto, leur premier enfant va naître en novembre 1912.
C'est lui, ce petit Otto, qui dans la seconde partie du XXe siècle mènera une carrière politique en Allemagne et non en Autriche, qui ne voulait pas de lui.
Mais absolument pas, ils allaient être chassés, enfin, donc voilà, ils ne voulaient pas qu'il vienne en Autriche. Et en novembre 1912, donc, les journalistes qui annoncent et célèbrent la naissance du petit prince Otto ne sont vraiment pas des prophètes, car ils n'imaginaient pas du tout son futur rôle européen. Par contre, ils le prévoyaient déjà régnant vers 1960-70, malgré tous les nuages qui s'accumulaient déjà au-dessus de l'Empire austro-hongrois.
Dont personne pourtant n'aurait pu imaginer en 1912 la disparition.
Et de toute façon, à ce moment-là, Charles n'est qu'en deuxième position sur le rang des héritiers potentiels, d'autant plus qu'il ne s'exprime pas beaucoup quant à la politique extérieure ou intérieure de l'Empire. Persuadé d'ailleurs d'avoir devant lui au moins 30 ans avant de se retrouver à la tête de la maison Habsbourg. En attendant l'orage qui éclatera en 1914 à Sarajevo, Charles hésite à mener une vie tranquille. Un deuxième enfant naîtra au début de l'année 1914. C'est une fille, cette fois-ci, que l'on nommera Adélaïde.
Il devait être heureux et tranquille, en vacances sûrement ce 28 juin 1914, comme une bonne partie des Européens, alors que le monde et surtout l'Europe venaient de basculer dans l'horreur.
C'était pourtant une belle journée d'été. Zita, Charles et les enfants étaient en train de déjeuner dans le parc de leur château. Lorsque ce bonheur tranquille venait d'être brutalement interrompu par l'arrivée d'un télégramme envoyé directement de Sarajevo, Charles, à qui le télégramme est adressé, l'ouvre, devenu blême, lit le contenu. Regrette profondément devoir vous annoncer que l'archiduc François Ferdinand et son épouse ont été assassinés ici à Sarajevo.
Un coup de tonnerre dans un ciel bleu.
En une seconde, le jeune couple passe du bonheur sans nuage à l'accablement profond et pense tous deux à une scène survenue 2 mois plus tôt lorsque François Ferdinand, au cours d'une conversation, leur a annoncé tout de go « Je serai assassiné d'ici quelques mois ». Ni Charles, ni Zita n'y croyaient et ont tout fait pour oublier cette conversation hallucinante.
Étonnante cette prémonition, qui hélas deviendra une catastrophe pour cet empire dirigé par François-Joseph, un vieil homme de 84 ans.
Pour Charles, il n'y avait rien d'autre à faire que faire son devoir, d'envisager l'avenir qu'il attendait, et avant de penser au trône, il devait se préparer à partir à la guerre, qui après ce 28 juin à Sarajevo est devenu inévitable. Pourtant, le premier ministre de l'Empire, le Hongrois István Tisza, a tout fait pour que l'ultimatum inacceptable de François-Joseph ne soit pas adressé à la Serbie. Mais la politique est ainsi. François-Joseph voulait, venger la mort de son neveu. Et malheureusement, cette décision et les décisions qui ont été prises, les populations allaient subir, tandis que des pays seront détruits. Charles, l'héritier du trône, revêt son uniforme. Il faut aller à la guerre. Et pour lui, cette guerre sera juste.
Mais peut-on parler de guerre juste ?
Pour moi, non. Lors de ce conflit, il n'y a pas que le pays du même empire qui vont s'entre-déchirer et se détruire, mais les familles vont être séparées, des pays découpés, ainsi que les deux frères de Zita qui devront s'engager dans l'armée française et seront devenus des ennemis de leur sœur et de leur beau-frère.
Comment vit ce jeune couple, Otto et Zita, pendant la guerre ?
Eh bien, Charles est au front, il est nommé général, tandis que l'archiduchesse Zita patronnera les œuvres de bienfaisance, tout en portant et mettant au monde un troisième enfant. Il visite pendant ce temps-là des hôpitaux de guerre dans le fameux wagon-salon de Sissi. Un quatrième enfant naîtra au printemps 1916. Au front, Charles va acquérir une popularité de plus en plus grandissante. Mais dès l'été 1916, il comprend et que ça devient évident que l'armée austro-hongroise ne pourra tenir les deux fronts où elle s'est engagée. Le 21 novembre 1916, c'est l'archiduchesse Maria Valeria, la fille de Sissi, qui fermera les yeux de son père, François-Joseph, qui venait de mourir.
Et comme il se doit, on crie « Le roi est mort, vive le roi !»
Et oui, et ce jour que Charles craignait tant est arrivé. Comme l'armée le soutient, il veut imprimer sa marque le plus vite possible. Et en toute première chose, il va se faire couronner roi de Hongrie à Budapest le 30 décembre 1916, donc à peine 6 semaines plus tard. Avec ce couronnement, il veut assurer l'unité des différents peuples qui composent l'Empire. Il avait raison d'y penser, mais le monde changeait. En Russie, la révolution a éclaté. Les communistes ont signé une paix séparée à Brest-Litovsk, alors que le tsar et sa famille venaient de disparaître dans la ville de Yekaterinbourg. Lui qui, en 1914, considérait que cette guerre était juste, maintenant tentait tout. Donc nous sommes en 1917 pour l'arrêter. Mais ni la France, ni l'Allemagne, deux pays vraiment belliqueux, ne veulent en entendre parler. Il va falloir attendre le 11 novembre 1918 et plusieurs dizaines, avoir des centaines de milliers de morts en plus, pour qu'enfin les soldats survivants rentrent chez eux. Et on peut dire qu'enfin ça serait la paix. Nous sommes le 11 novembre 1918 à 11h du matin, où les cloches sonnent à travers l'Europe. Alors, essayons d'entendre les cloches qui rassuraient tant de personnes. Voilà. Et on
joyeuse.
Écoute encore un peu de musique, toujours Schubert, et voilà, et on reprendra plus tard. Voilà, nous nous retrouvons dans les studios de Radio Grand Ciel pour parler de notre personnage insolite qui, donc, à la fin de la guerre, qui n'apporte pas la paix partout, Voilà, il se retrouve face à des gros problèmes. La révolution bolchevique atteint la Hongrie aussi, et qui durera un an, en Autriche aussi, et un gouvernement social-démocrate prendra le pouvoir et chassera la famille impériale de Vienne. Charles se souvient des phrases prémonitoires du vieil empereur prononcées au début de la guerre, en 1914.
Mais oui, et qu'avait-il dit ?
Il a dit, voilà ses paroles exactement, « Au début, tout commencera par des victoires. Puis, cela ira de plus en plus mal, et alors éclateront les révolutions, et cela sera la fin. »
Et quel dommage de ne pas l'avoir entendu. C'est assez surprenant, vraiment.
Dommage. Les gens n'écoutent pas trop, et c'était inimaginable à l'époque, ça. Le désastre militaire était une humiliation personnelle pour Charles, mais au moins, disait-il, il n'y avait plus d'autres soldats qui tombaient. Il faut dire que sur 8 millions de soldats mobilisés dans l'Empire, 1 million ont été tués au combat, 500 000 sont morts en captivité. Et en tout cas, la fin de la Première Guerre mondiale était en même temps la fin de la puissance militaire autrichienne qui disparaissait après plusieurs siècles de prestige.
Et à partir de ce moment-là, quel fut le sort de Charles et de la famille impériale ?
Eh bien, dans ce crépuscule de la monarchie, Charles et Zita ne quittent plus Schönbrunn, leur palais d'été, mais ils ne pourront pas y rester longtemps. Charles, qui refuse d'abdiquer, et l'Autriche les expulsera définitivement. Finalement, ce sont les Britanniques qui vont les accompagner, toute la famille impériale, tous ses membres, jusqu'à une petite gare toute proche de Schönbrunn, d'où ils devront partir en exil.
Sûrement un moment très émouvant et poignant.
Absolument, et le temps ne s'y prête pas non plus à la joie, parce qu'il pleut, il fait nuit noire, 2000 personnes les attendent en silence et assistent en larmes au départ des derniers souverains d'Autriche. Les hommes se découvrent, les blessés de guerre en uniforme se tiennent au garde-vous. Charles leur serre la main et les Britanniques lui présenteront les armes. On entonne l'hymne impérial et c'est la dernière fois qu'il est chanté par un empereur d'Autriche sur la terre de ses ancêtres. Ensuite, ils monteront dans le train qui s'ébranle, emportant à son bord la famille Habsbourg.
Et où vont-ils s'installer ?
Ils arrivent d'abord en Suisse, où Stefan Zweig, curieusement, par hasard, assiste à leur arrivée. Et il en parlera dans son roman « Le monde d'hier ». Voilà les quelques phrases que je peux en citer. « Je reconnais, derrière la glace, la haute stature dressée de l'empereur Charles et de son épouse, l'impératrice Zita, en vêtements noirs. » Et cela se passe, le 24 mars 1919, où le train impérial franchira la frontière de Suisse. Et le 1er avril 1922, trois ans plus tard, à Funchal, à Madère, où à 34 ans, Charles d'Autriche rend son âme à Dieu, trois années de fuite en avant se passeront. D'abord, ils vivront 2 ans, au bord du lac de Genève, où naîtront leurs 6e et 7e enfants, où ils découvriront une chose totalement inconnue d'eux, la difficulté financière.
Et comment cela est-il possible ? Pour quelles raisons ?
Et oui, ils étaient extrêmement riches, c'est vrai, mais l'Autriche a nationalisé tous leurs biens et la vente des bijoux personnels assez rapidement n'était plus suffisant pour payer les frais qu'occasionnait l'entretien de la famille et surtout les 50 personnes vivant auprès de la famille impériale. Et ce n'était pas tout. Monsieur Steiner, l'administrateur impérial qui s'occupait de leurs biens, disparaîtra avec tout leur argent, enfin ce qui en restait.
Série de catastrophes.
Exactement.
Cela a dû être très difficile pour cette famille nombreuse et tous ceux qui l'accompagnaient.
Et oui, on a du mal à imaginer, mais c'est vrai, c'était absolument difficile pour eux. L'empereur même en exil, pourtant, s'occupe pas des finances. Il prépare un grand projet. La Confédération danubienne, voilà son idée, qui, hélas, dommage, ne se réalisera pas. Peut-être sans le traité de Versailles, ça aurait pu avoir lieu. Mais voilà. Il y a ensuite deux tentatives qui seront avortées pour reprendre le pouvoir au moins en Hongrie. Mais cela ne marchera pas et ça ne va pas leur redonner le moral. Donc, cette deuxième tentative était un véritable désastre. Ils vont se retrouver cloîtrés dans une abbaye millénaire en Hongrie, au bord du lac Balaton. Ce sont les officiers de l'entente cordiale qui vont escorter les souverains déchus. D'abord, ils partiront en bateau sur le Danube. Ils passeront à Budapest, en contrebas du palais royal, où 5 ans auparavant, ils étaient couronnés sous les acclamations et les hurrahs de la population hongroise joyeuse. Et là, ils seront en route vers l'exil, et sur le pont du bateau, ils ne peuvent pas monter pour voir la ville qui leur a tellement fait fête en décembre 1916.
Quelle était leur prochaine étape ?
Eh bien, ils prenaient l'Orient Express jusqu'à Madère, qui deviendra leur lieu d'exil, où ils arriveront le 19 novembre 1921. Du port, ils vont apercevoir une belle église blanche en haut de la colline, qu'ils se promettent de visiter, bien entendu, et même d'y aller régulièrement prier. Ils se font des projets. Ils ne savent pas, mais Charles n'aura plus que 132 jours à vivre. Madère et cette belle église sera sa dernière demeure. Le manque d'argent devient crucial. On leur prête une villa, non loin de l'église blanche. Hélas, on ne peut la chauffer. Les enfants ne peuvent y vivre. L'impératrice Zita les ramène en Suisse, tandis que l'empereur Charles reste seul dans la villa glaciale, dans un dénuement quasi total.
L'impératrice Zita revient rapidement de Suisse, quand
même. Non, parce qu'un des enfants a été opéré de l'appendicite et elle ne peut pas les laisser. Donc, elle ne revient que 2 mois et demi plus tard. Entre-temps, Charles va prendre froid. Il tombe vraiment malade et atteint d'une pneumonie. Son état s'empire et il meurt rapidement, le 1er avril, dans les bras de l'impératrice Zita, arrivée seule depuis peu, depuis la Suisse.
Et qu'en pensent les habitants de Funchal à Madère ?
Eh bien, en 4 mois, les habitants de la capitale de Madère ont su comprendre et aimer cet homme extraordinaire de bonté et de gentillesse. Le jour de ses obsèques, puisqu'il va être enterré dans cette belle église blanche, sa tombe y est toujours, fleurie. Et curieusement, en la visitant, je me suis rendu compte que c'est surtout les Hongrois qui lui laissent des fleurs, puisqu'il y a le drapeau en même temps. Et aucun bouquet de fleurs donné par les Autrichiens ne se trouve dans cette église. C'est assez étonnant. Donc Charles sera inhumé dans cette église et il trouvera le repos éternel. Mais il devra attendre presque un siècle avant que le pape ne lui accorde sa béatification. Lorsque le 3 octobre 2004, sous un soleil radieux, vers la fin du pontificat du pape Jean-Paul II, on assiste à une cérémonie de béatification où, selon la tradition, d'immenses portraits des nouveaux bienheureux sont accrochés à la façade de Basilique Saint-Pierre. On trouve parmi les 5 portraits, celui de Charles aussi, dernier empereur d'Autriche et dernier roi de Hongrie. Charles a été offert en modèle par l'Église catholique pour sa piété, pour la façon dont il a servi la paix et la justice sociale.
Merci Elisabeth d'avoir évoqué cette belle et noble figure.
Et merci de nous avoir écoutés.
À bientôt pour une prochaine découverte d'un personnage insolite
sur Radio Grand Ciel.
Radio Grand Ciel.